Bonjour.
Bonjour.
C'est solidaire d'abord. Alors, la première chose à dire, j'espère que Sylvain, tu vas bien et que voilà. Je suis pas en train de dire Quentin que on veut te remplacer, hein, mais bon, on aime bien Sylvain et voilà, on pense à lui et que qu'il se remette le
Voilà,
plus vite possible.
oui, on a envie de le revoir, quoi,
Voilà,
hein.
on a envie de le revoir au plus vite. C'est pas comme El Kabash. Moi, j'ai pas forcément envie de revoir El Kabash. Voilà, El Kabash. Alors, j'ai pas envie de dire que je suis content que El Kabash soit mort. C'est pas du tout ça. C'est pas le propos. Mais qu'il soit plus là, c'est pas mal, quoi.
El Kabash, il n'a jamais été directeur de Fréquence 7.
Non, il a
Non.
jamais. Et par contre, il a été sans doute le premier à avoir des questions très très orientées et à être au service du monde libéral d'une façon complètement éhontée, quoi. Et ça, dans les gens qui ont rendu hommage, personne n'en a parlé. Alors, je trouve ça un peu grave, quoi. Enfin bon. Alors, il y a des gens qui font de l'humour et qui disent que Macron, c'est pareil que ChatGPT et qui parle exactement pareil, qui fait beaucoup de vent, tu vois. Et donc, il y en a même qui disent qu'il faudrait le brancher sur une batterie, qu'on récupérerait au moins un petit peu d'énergie, quoi, parce que comme ça sert pas à grand-chose ce qu'il fait, parce que ils disent, il est partout, Macron, il est partout, mais en même temps, il est nulle part. C'est pas mal, je trouve. Voilà. Alors, il y aura une manif le 13 octobre. Alors, ça, il faudrait que tout le monde l'ait bien entendu parce que je trouve que les infos, pour l'instant, on les a pas eu beaucoup. Donc, à Privas, à 10 h du matin, devant le conseil départemental. Cette manif, elle est à la fois pour les salaires, pour l'égalité, pour les services publics, pour l'environnement, pour les retraites et pour les droits. Alors c'est vrai que là, on brasse beaucoup de choses, c'est très large, mais c'est vrai que cette société libérale, elle empêche tout ça. Voilà. Et il y aura l'après-midi, à Aubenas, discussion à l'Agora entre 15 h et 18 h. Voilà. Alors je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais il y aura sans doute une table avec des gens pour discuter. Enfin bon, voilà.
Un temps d'échange,
Un temps
peut-être?
d'échange, voilà, un temps de réflexion. Alors aujourd'hui, on a une émission avec plusieurs sujets qui sont là, actés. Donc, cette guerre qui vient de commencer, on a une guerre toutes les semaines maintenant, hein, je sais pas si tu as vu. Voilà, on va parler aussi de l'eau et des mégabassines, on va parler aussi de ce qui se passe au local, et on va parler de la justice. Et puis, on a un dossier qui nous a été plus ou moins proposé par toi, excuse-moi, pas plus ou moins, Amélie. Et donc ce dossier, c'est sur un gars qui s'appelle Benjamin Brice, qui est un monsieur qui vient mettre le pet sur la compétitivité qui est à la racine de ce monde libéral. Voilà.
C'est ça. On verra ça tout à
On
l'heure.
va avoir ça tout à l'heure. Alors, en premier, on va parler rapidement de cette guerre qui vient de commencer, qui est amenée par le Hamas, pour dire que, évidemment, enfin, je sais pas comment vous le voyez-vous, mais moi, je suis absolument pas d'accord qu'il y ait des civils qui se retrouvent tués, qu'il y ait des civils qui se retrouvent à être otages, etc. Autant je suis pas d'accord pour que ça se passe, là, maintenant, comme ça, comme c'est en train de le faire en Israël, mais comme je ne suis absolument pas d'accord sur le fait que, en temps habituel, les gens de Gaza se retrouvent quasiment en prison à ciel ouvert, et il y a un vrai apartheid pour eux en Israël, c'est absolument pas normal. Tu disais, Alain, d'ailleurs, à juste titre, il me semble qu'il y a deux peuples, non? Donc il devrait y avoir deux États, ou je sais pas, quoi.
Oui, ça a toujours été très compliqué. Hein. Moi, je suis pas du tout un spécialiste à ce niveau, mais j'ai toujours été surpris, quoi. Bon, je crois que la Palestine est un pays qui existe. Israël est un pays qui a été reconnu aussi. Depuis 48, il me semble. Ouais, hein. Donc, bon, on se dit, mais enfin, pourquoi ? Et puis, il y a l'ONU, hein, à la limite, qui peut, là, jouer le bon père de famille pour essayer de résoudre les choses. Parce que sinon, ils vont passer leur temps à se foutre sur la gueule, comme on dit. Et on n'en sort plus, quoi. Et forcément, les guerres sont sales.
L'ONU condamne la colonisation israélienne, hein, parce qu'ils continuent à coloniser. C'est-à-dire, quand tu vois une carte de ce qu'était Israël au départ avec la répartition des territoires, tu avais une partie qui était occupée par les Juifs, une partie par les Palestiniens. Et là, maintenant, tu cherches un tout petit peu les confettis qui restent aux Palestiniens. C'est assez fou, quand même. Mmh. Voilà. Donc, on ne va pas s'étendre beaucoup sur ça, parce qu'on n'a pas... On fera peut-être venir un spécialiste qui viendra nous en parler un petit peu mieux. Hein. Maintenant, moi, ce que je note, quand même, c'est que dans tous ces pays du Moyen-Orient, vous avez vu l'Azerbaïdjan voilà, avec l'Arménie, on n'a que des régimes autoritaires. Regarde l'Égypte, regarde la façon dont ça se passe en Syrie, en Iran, en Irak avec les USA qui sont toujours là derrière, hein, quand même, en Arabie Saoudite, Israël qui est quand même pas du gâteau. Hein, quand Netanyahou vient pour défiler au moment où il y a l'attentat du Bataclan, moi j'étais pas d'accord qu'il soit là, hein, parce que c'était pas un gentil monsieur qui venait participer à ça. Il était en train d'instrumentaliser le fait qu'il y avait des Arabes dans le coup. Hein. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Donc ça va pas du tout. Le Qatar, j'en passais des meilleurs. En ce moment, il y a une guerre au Yémen quand même. Enfin, je sais pas quoi. C'est fou. Et tout ça pour sans doute beaucoup pour le pétrole. Quoi. Mm. Voilà. Donc c'est pas
normal.
Faudra
qu'on parle de la question de l'énergie un jour.
Mm. Voilà. Il faudra qu'on en parle mieux. Ouais. Alors, on va parler un petit peu de l'eau et des méga-bassines. Hein. Mm. Alors, Amélie, t'as vu un petit peu cette histoire
Et oui, donc il y a des méga-bassines qui étaient prévues et, adoubées par le préfet, qui étaient autorisées par le préfet des différents départements. Donc ça se passe dans l'ouest de la France. Oui. Je crois que tu as le nom de tous les départements.
Nouvelle-Aquitaine.
Voilà.
On appelle ça comme ça. Et donc les départements, Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres et la Vienne.
Voilà. Et donc les bassines en question représentent un volume de 3 millions de mètres cubes d'eau pompée dans les nappes phréatiques. C'est pas de la récupération d'eau de pluie. Et voilà. Donc on se souvient quand même, on ne peut pas passer sous silence. L'épisode de Sainte-Soline.
Alors, Sainte-Soline, qui est dans les Deux-Sèvres, hein, donc voilà. un des projets incriminés.
Et donc, ces projets viennent d'être recalés par le tribunal administratif suite à une action qui a été menée par des associations. Et voilà.
Voilà. Alors, le tribunal a recalé le truc en disant « Le projet n'est pas associé à de réelles mesures d'économie d'eau ». Et ne tient pas compte des effets prévisibles du réchauffement climatique. Et je crois que tu avais des choses à rajouter.
Et oui, et le tribunal dit aussi que le projet ne tient pas compte non plus des capacités de production d'eau de l'environnement à ces endroits-là. Voilà. Donc c'est vraiment un assèchement des nappes phréatiques. Et on peut se demander de quel droit, en fait. Ce qu'il faut rappeler, c'est que ce n'est pas l'État qui fait ça. Ce sont des particuliers, ce sont des agriculteurs. Hein, donc, voilà. Même si c'était l'État. Mais je veux dire, en plus, là, c'est des privés, quoi.
Ouais.
Qui ont ces projets-là. Donc, je me demande...
C'est des intérêts privés sur un bien commun. Hein.
Voilà, c'est ça.
Sur un bien commun. Et donc, là, il est dit quand même inexactitude, omission, insuffisance dans l'étude d'impact. C'est quand même... fort, quoi, hein, les mots, hein, inexactitude, omission, insuffisance. Et l'effet que cela produit, c'est que ça nuit à l'information complète de la population. Donc après, on peut te mettre des projets sans avertir correctement la population, et hop, ça passe.
Et, voilà.
Oui. Et donc chercher l'erreur, c'est qu'en France, eh ben, très très souvent, ça se passe comme ça. Hein.
Ouais.
On a la même chose sur l'autoroute A69 en ce moment, par exemple, mais sur plein de choses, c'est comme ça.
Ouais,
et donc ce qui est grave, c'est que Pierre-Yves Marais, qui vient souvent dans cette émission, nous explique que, là, il y a une quinzaine de projets qui sont retoqués, mais il y en a 1000 qui sont
dans les tuyaux.
Alors donc, voilà, c'est le cas de le dire.
C'est le cas de le dire.
On parlait l'autre jour des différents modes d'action et le fait d'aller en justice, je pense que ça fait partie du panel. Hein.
Ouais.
Et bon, c'est très énergivore, c'est très, très coûteux, mais quelque part, quand démocratiquement, on voit que ça se passe comme ça, que la population n'est même pas informée des effets des projets ou qu'il y a des mensonges, je pense que là, il ne faut pas hésiter.
Oui, tout à fait. Alors, il y en a un troisième sujet, mais là, c'est plus au local. C'est parler de la Bézorgue, parce que le 5 octobre, il y a eu un article de la Tribune qui a rapporté le fait qu'il y a des gens, un collectif, pour protéger les rives de la Bézorgue, qui sont allés aux ECBA, le Conseil...
Conseil communauté du bassin d'Aubenas.
Bassin d'Aubenas.
Communauté de communes, en fait. CCBA, ça veut dire communauté de communes du bassin d'Aubenas.
Donc le président, c'est Tourvieille,
le maire de Vaisseau.
De Vaisseau. Et donc, ils sont allés protester parce que, en fait, est en cours de régularisation tout un ensemble d'appareillages qui permettent du canyoning sur la Bézorgue. Cette installation s'est fait sans permis de construire pour tout ce qui a été, tous les équipements qui ont été mis. Alors je ne suis pas capable de vous répondre plus avant sur exactement ce que sont les équipements en question, mais ça a été fait sans permis de construire, de façon complètement illégale depuis 10 ans. Et en fait, il y a des factures très très juteuses parce que pendant l'été, il semblerait qu'il peut y avoir jusqu'à 500 personnes là-haut, là, à la Bastide sur Bézorgue, juste au-dessus. Qui passe et donc ça donne des trucs où toi tu dis que t'as quelqu'un qui t'a expliqué qu'il
j'ai un copain qui va se baigner de temps en temps là-bas à la Bastide sur Bézorgue et un jour il était tranquille en train de se faire bronzer dans un champ, tout à coup il est arrivé un véritable commando au moins 50 mecs avec des combinaisons, enfin il s'est demandé ce qui se passait, il ramassait des trucs sur la tronche. C'est impressionnant. Et plus loin, des fois je vais me promener là, je vais dans le jardin de Cluses, hein, quoi, enfin au-dessus, hein, et disons, c'est vrai qu'il y a un aménagement qui a été fait pour garer, je sais pas, énormément de voitures, et je crois même qu'il y a un endroit, soit une zone héliport, soit, quoi, enfin, pour un hélicoptère, soit pour les pompiers, mais c'est vraiment impressionnant, quoi, parce que la route, elle est quand même petite, hein,
oui,
c'est vraiment la route d'Ardèche,
j'imagine,
hein,
des grands cars qui vont passer là-dessus.
Et puis d'un coup, on se retrouve devant un grand parking, on se dit, tac, et c'est en fait, donc il doit y avoir énormément de monde, sans doute, hein, je pense.
Mais c'est ce que, en gros, dénonce le collectif là, qui est allé interpeller les élus du CCBA. Et ils disent que d'une part, il peut y avoir une certaine dangerosité sur les rives de la Bézorgue à certains endroits, dans le parcours qui est utilisé pour le canyoning. Et puis,
Mais qui organise tout ça? C'est une société privée? C'est une association?
Il y a une seule personne qui passe à la caisse, en plus.
D'accord.
Donc voilà, il y a apparemment quand même un gros problème de sous, là. Voilà. Vous avez vu que Macron a créé deux brigades mobiles en Ardèche? Il crée deux brigades mobiles de flics.
Ah bon?
Ah ouais, il va y avoir deux brigades mobiles de gendarmes en plus.
D'accord.
Alors c'est vrai que c'est...
Donc des motards.
Je ne sais pas exactement. Par contre, il y a eu six brigades qui ont été éliminées depuis 2013 quand même. Par exemple, à Burzé, il y avait une brigade. À Montpezat, il y avait une brigade. Bon, tout ça, c'est parti.
Ben, des gendarmeries, il y en avait pas mal. Il y en avait même une à Vals-les-Bains. Hein.
Ouais, donc, un peu moins de services publics. Mmh. Mais là, d'un seul coup, cocorico, deux brigades qui sont créées. Enfin, bon, voilà.
Et pourtant, les Français attendent, hein, on le dira tout à l'heure, ouais. Mais ils sont très nombreux à attendre une police de proximité.
Alors, je parle de justice, parce qu'on vient de parler de police. Vous avez vu que... Alors, Sarko...
Ah ben, il a... Eh ben, dans le long feuilleton judiciaire, hein, qui dure depuis 2007, à peu près, hein, le moment où il a été élu.
C'est une série, ça.
Bon, ben, donc là, il avait déjà X casseroles sur le dos, dont déjà une mise en examen. Eh ben, il en a une deuxième.
Voilà.
Encore. Ouais.
Mais c'est, ça fait un paquet de fois qu'il passe devant la justice. Hein. Je ne sais pas combien de fois.
C'est une série. Hein, qu'enfin, on compte plus. Hein.
Ouais, on compte plus. Hein.
On a l'habitude.
C'est ça. Ouais. Alors là, c'est le financement libyen de sa campagne de 2007. Et ça sera jugé en 2025. Chercher l'erreur aussi, tu vois, un peu, quand même.
Ouais. Ouais.
Voilà, les mecs, ils passent quand même à travers pendant un sacré moment. Hein. Alors, Chirac est passé à travers jusqu'au bout, d'ailleurs, hein, parce qu'il aurait dû. Hein, mais bon, enfin, bref. Voilà. Et Macron, alors, quand est-ce qu'il va passer au tribunal? Parce que quand même, il a vendu Alstom à Alcatel. Il a participé à la vente, en tout cas. Il y a donc des financements glauques, là. Et puis, il n'y a pas que ça.
Il n'y a pas que ça. Benalla, c'est pas très clair.
Benalla, c'est pas clair. C'est que Benalla, il a pris 3 ans, dont un seul ferme, et avec aménagement. Donc, ça veut dire avec bracelet. Donc,
un an avec bracelet, quoi.
Voilà, un an avec un bracelet.
Bon, il aura circulé, il n'y a rien à voir. Voilà, tout à fait.
Parce que Macron, il a quand même fait monter le RN. Hein. On se retrouve avec quand même sans arrêt, il met en avant les idées du RN, en fait. Il est sans arrêt en train d'essayer de faire un opportunisme sur l'Assemblée nationale aussi.
Ben, il a tellement besoin pour faire passer ses lois RN, donc finalement, ils ne font pour plus qu'un, les deux.
Oui, ouais. Et comme on expliquait la dernière fois avec toi, Alain, hein, souvenez-vous, le RN ne vote absolument rien de ce qui va dans le sens populaire.
Voilà, donc en fait, ils sont ensemble pratiquement. Hein.
Voilà, ils sont ensemble. Voilà. C'est deux faces de la même pièce. Donc, ils créent en plus le CNR avec un cynisme absolument abominable. Moi, je trouve qu'il faut qu'il soit jugé, ce mec. J'espère qu'on arrivera à l'avoir jugé à un moment, quoi. Hein. On ne peut pas laisser passer un truc pareil, quoi. Bon, on arrive au dossier. Alors, le dossier de Benjamin Brice.
Ben ça, c'est... moi, je suis pas du tout politologue ni économiste, mais j'ai été assez impactée par une conférence, une interview plutôt, sur la chaîne Elucide, que je vous conseille. Elle est très pertinente. Et donc, c'est une interview de Benjamin Brice, qui est docteur en sciences politiques. Ce Benjamin Brice, il a écrit déjà il y a un an un livre qui s'appelle « La sobriété gagnante ». Alors, je ne l'ai pas lu encore, mais je le lirai, je vous ferai un petit compte-rendu si ça vous intéresse. Et il vient de sortir un autre livre qui s'appelle « L'impasse de la compétitivité ». Et dans cette interview, il décortique ce concept de compétitivité et ses conséquences diverses. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant, j'avais envie de vous en parler un peu.
Oui, super.
Voilà. Et donc, le constat, c'est que dès qu'on veut parler d'un problème... dans la société, problème social, problème d'inégalité, problème écologique, j'en sais rien, surconsommation, financement des services publics, à chaque fois, le retour, c'est oui, mais la compétitivité. Et ça vient bloquer tout le débat et toute la réflexion. Donc, Benjamin Brice a décidé un peu de creuser cette histoire de compétitivité. Et... la première chose qu'on peut se demander, c'est qu'est-ce que c'est exactement que la compétitivité? En fait, c'est pas un concept, malgré ce qu'on pourrait penser, c'est pas un concept que les économistes utilisent beaucoup, c'est plutôt les politiques qui utilisent ce concept-là. Et donc, je suis allée voir un petit peu sur le site economie.gouv.fr. Et donc, voilà, la définition de la compétitivité donnée par l'Union européenne. Alors, je vous lis, hein. L'Union européenne définit la compétitivité comme la capacité d'un pays à améliorer durablement le niveau de vie de ses habitants et à leur procurer un haut niveau d'emploi et de cohésion sociale dans un environnement de qualité. Voilà. Donc, voilà, quand on voit ça, déjà, moi, ce qui m'interpelle, c'est que ce n'est pas une définition de ce qu'est la compétitivité, mais des résultats qu'elle devrait avoir. C'est la promesse, en fait.
C'est la promesse de la compétitivité.
Voilà. Et donc, notre gouvernement est à fond sur ce dogme de la compétitivité. Et donc, est-ce que la promesse est tenue? C'est ça la vraie question, en fait. Eh bien, la promesse, elle n'est pas tenue. Elle n'est vraiment pas tenue parce que ce dogme de la compétitivité est mis par les gouvernants au-dessus de toutes les autres contraintes qu'on devrait prendre en compte, en fait. Contraintes sociales, contraintes environnementales, etc., services publics, etc. Donc la compétitivité, elle vient vraiment comme une priorité des priorités au-dessus. Et donc, ce que dit Benjamin Brice, c'est qu'il faudrait... C'est pas un fantasme non plus, la compétitivité. C'est une réalité dans un monde où le marché est ouvert. Mais donc, ce qu'il faudrait faire, c'est peut-être s'interroger sur la liberté...
comment il est ouvert,
voilà. Et deux, peut-être remettre ce dogme à sa juste place parmi tous les autres.
Et toi, Alain, tu disais justement sur cette compétitivité, etc. Enfin, c'est presque un langage de banquier, non ?
Moi, je sais pas si c'est un langage de banquier, mais moi, ça m'interroge beaucoup parce que je trouve que c'est très contraignant, finalement. C'est pas du tout le bonheur d'un peuple. C'est au contraire une aliénation d'un peuple parce que il peut pas avoir son salaire qui augmente, il peut pas accéder au bonheur, tout ça, parce que on lui fait comprendre que si toutefois il gagne plus, son usine va fermer, quoi. C'est de la contrainte, c'est quelque chose qui opprime un peuple, hein, plus qu'il lui amène le bonheur. Voilà, parce que le marché ouvert, finalement, le peuple, on en a rien à foutre. Enfin, du marché ouvert, on préférerait peut-être qu'il y ait quelques contraintes à la frontière, et puis qu'on vive plus heureux. Hein.
Oui, plus heureux et de façon plus résiliente, parce que cette ouverture des marchés et cette spécialisation des différentes régions du monde dans différentes productions, ça entraîne une vulnérabilité énorme, en fait. On l'a vu, par exemple, avec le Covid sur les masques, etc., etc. Voilà, on est complètement pieds et poings liés, et au niveau géopolitique aussi, on est pieds et poings liés avec les autres pays.
Alors, il décortique un petit peu Benjamin Brice, et il parle surtout des deux effets de la compétitivité, un sur les prix, un autre sur la qualité.
En fait, c'est deux façons de rendre les produits compétitifs. Alors, il y a la compétitivité coût ou la compétitivité prix. Donc, ça veut dire, l'objectif, c'est de baisser au maximum les prix pour être compétitif. Et la compétitivité hors coût ou hors prix, qui, elle, joue sur la qualité, l'innovation, etc. Voilà. Et donc, en France, il semble évident que ce qui est le mieux pour la population, c'est la compétitivité hors coût, puisque ça permet de garder des prix corrects, et ça permet de continuer à payer les gens correctement, de financer les services publics...
D'inventer,
et de créer, etc. Ouais. Et en France, le problème qu'on a, c'est que la France est restée sur une compétitivité coût, c'est-à-dire... Alors, coût, qu'est-ce que ça veut dire ?
Coût du travail.
Concrètement, c'est baisse des salaires, c'est exonération des cotisations sociales, c'est flexibilisation de la main-d'œuvre, c'est modification du code du travail, voilà, etc., etc.
Peut-être ce qu'il faudrait rajouter, c'est que au niveau, par exemple, je pense à la Chine, il n'y a que 6 millions d'enfants qui bossent.
Oui, c'est ça, il y a tous les aspects sociaux.
Donc, on peut difficilement comparer, quoi. En France, nos enfants ne bossent pas. Voilà, il faut faire bosser nos enfants si on veut être compétitif, quoi.
Et donc, il y a d'autres pays qui, eux, par contre, sont partis sur la recherche, sur la formation, etc., comme l'Allemagne, et on se retrouve complètement en perte de vitesse par rapport à l'innovation.
Oui, parce que l'innovation et la compétitivité hors coût, ça suppose des investissements de la part de l'État. Ça suppose des investissements dans l'éducation, l'aide aux entreprises, etc. Voilà.
Et on va être obligé de clore parce qu'il nous reste plus qu'une grosse minute. Et donc, on avait parlé du fait qu'on allait parler d'un sondage. Un sondage qui a été fait par un organisme qui s'appelle Cluster 17. Et donc, on dirait presque que c'est un programme. Hein.
Oui, presque un programme politique. Hein. Ouais. Par exemple, le SMIC à 1600 euros par mois.
Alors, combien de gens seraient d'accord avec
Alors, 77% sont pour.
Indexer les salaires sur l'inflation, 87% des gens seraient d'accord.
Geler les loyers, 72% des gens seraient d'accord.
Bloquer les prix, 89% de gens seraient d'accord.
En France, hein, donc, retraite à 60 ans, 77% des gens sont d'accord.
Prendre en compte le vote blanc, 80% des gens seraient d'accord.
Le RIC, 80% seraient pour.
les réformes de l'IGPN, hein, 76% pour avoir quelque chose qui marche mieux au niveau de la police.
Taxer les GAFAM, 86% des gens seraient d'accord.
Remettre l'ISF, 79% sont pour.
Police de proximité, 95%, tenez-vous bien hein, quand même. Et alors, trois réformes. La première,
Les pollueurs, pollueurs-payeurs. Hein.
Pollueurs seraient les payeurs.
Voilà.
Deuxième, planification écologique, mais une vraie.
Et la troisième, prendre une distance avec la surconsommation. Voilà. Intéressant.
C'est pas pour tout de suite.
Solidaire d'abord est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.
À bientôt.
Ciao, ciao.